On était la semaine dernière, on a fait un exploit, on a pu finir en un cours. Le philosophe, le monde, l'islam, la pensée de l'islam, la pensée de la chrétienté. C'est-à-dire, aujourd'hui, avant de commencer ce que va dire le raver, ce que va dire le rabbin, alors il faut faire plusieurs agdamot, plusieurs préfaces. C'est-à-dire, maintenant regardez, ce qui est important pour nous, c'est comme on a expliqué au début, c'est sûr qu'on appelle le Kuzari, le Sefer HaKuzari, c'est basé sur une histoire historique qui s'est passée. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait de cette histoire historique? C'est qu'il y avait un grand roi qui a rencontré un sage d'Israël, un rabbin d'Israël, et qui a décidé de faire, lui et tout son peuple, de faire une conversion, de convertir son peuple et de s'attacher à la Torah, etc., etc. Il a fait. Ça, hein, c'est au 9e siècle. 300 ans ou 200 ans plus tard, vient Rabbi Yehuda Lévi et qui va écrire le Kuzari. Mais comme on a expliqué la semaine dernière, c'est lui qui écrit ça. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est lui qui écrit ça? C'est-à-dire que ça va être une œuvre écrite par Rabbi Yehuda Lévi sur un fond historique. Mais lorsque le roi des Khazars parle, qui parle à travers lui? Rabbi Yehuda Lévi. Lorsque c'est le rabbin qui va répondre, ou il s'appelle le Khaver, l'ami, c'est le sage d'Israël qui va répondre au roi des Khazars. Qui parle à travers le rabbin? C'est Rabbi Yehuda Lévi. Donc, on a ici un écrit de Rabbi Yehuda Lévi. La question, c'est de savoir quelle est la particularité de Rabbi Yehuda Lévi et qu'est-ce qu'il vient rajouter dans l'âme Israël et pourquoi Davka, précisément à cette époque-là, c'est-à-dire en 1100 et quelques, 1120, 1130, comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé ce grand sage, Rabbi Yehuda Lévi, sur cette terre et c'est quoi son but? Et comme ça, nous allons comprendre quel est le but de notre étude. Ça va? Il y a fait. Alors, pour pouvoir comprendre ça, on a plusieurs notions de base à connaître. Pour ceux qui connaissent déjà, ça va. Il n'y a pas de Beth Amidrash sans Chidouche, sans nouveauté. Donc, j'espère que si on a un vrai Beth Amidrash, une vraie maison d'études, même virtuelle, il y aura aussi des Chidouchim. Alors regardez, nous savons d'après la Gemara dans Maseret Avodah Zara. Dans Maseret Avodah Zara, il est marqué Daftet Amud Alef, il est marqué que toute l'histoire humaine, elle durera à l'image des jours de la création. C'est-à-dire? Et nous savons que nous avons 6 jours de la création, et par conséquent, nous avons en calque, en rappel ou en rappel de ces 6 jours de la création, voir toute l'histoire humaine. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire humaine? Ke'elev shanim, 1000 ans, c'est ke'yom, c'est comme un jour. Pour Akadosh Baruch Hu, 1000 ans de l'homme, c'est considéré comme un jour d'Akadosh Baruch Hu. Et de là, il y a eu un grand remez, une grande allusion, pour comprendre ce que la Gemara va dire, c'est que le temps de l'histoire de l'homme, va se diviser en trois parties. Les trois parties, chaque partie va durer Alpaim Shana, 2000 ans. C'est-à-dire 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. C'est-à-dire? Et la Gemara dira, il va se poser la question, il va chercher à partir de quand ça commence, parce que la Gemara va diviser ces trois époques en trois notions. Première notion, Tohu.
Tovo.
Tohu Bohu. Deuxième époque, Torah. Troisième époque, Yemot HaMashiach. Yemot HaMashiach. Tohu Bohu, Torah, Yemot HaMashiach. Pendant les 2 premiers 1000 ans de l'histoire, si on est les parachutes de Bereshit et Noir, on est en plein Tohu Bohu. Maintenant, Baruch HaShem, qu'on revient en Eretz Israël et que l'ivrite, l'hébreu, le Lashon HaKodesh, redevient pour nous quelque chose de compréhensible et de naturel. On sait que pendant longtemps, même dans les traductions, on traduit Tohu Bohu par Tohu Bohu. Moi, quand j'étais petit, je me rappelais très bien, au début, il y a eu le Tohu Bohu. C'est quoi le Tohu Bohu? Alors, on comprend très bien hein, en français, mais en ivrite, c'est clair. Tohu vient du mot, où c'est, on connaît le mot en hébreu, Tehiya. C'est quoi Tohé ou Tehiya? C'est le doute. C'est le doute. C'est quand tu es dans le doute, tu es dans l'obscurité, tu sais pas trop, tu n'arrives pas à voir les choses correctement. Qu'est-ce que c'est Behiya? Behiya, Bohé, c'est tu vois la chose, mais tu n'arrives pas à lui donner une définition. Maintenant, comme c'est magnifique, pourquoi c'est magnifique? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé pendant les deux premiers mille ans. Il y avait l'humanité qui se développe. Il y a Adam, Caïn et Evel, la descendance de Caïn, la descendance du troisième fils de Adam avec Seth. Tout ça, c'est les parachutes de Bereshit et Noir. On a la génération du déluge. On a la génération de Babel. On a la génération de Sodome et Gomorre, etc. Toutes les catastrophes qui vont se passer. On est dans une époque 2000 ans. C'est énorme, 2000 ans. Où l'homme est dans la Tehiya, dans le doute le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il y a le Créateur qui ne se dévoile pas à ses créatures. C'est-à-dire, pendant 2000 ans, il y a un silence divin. La seule fois où HaKadosh Baruch Hu va parler, on peut les compter. Adam, premier homme, Adam Harishon, il va parler à Caïn, il va parler à Noah, peut-être à Metushelah, et non, je n'en sais pas trop. Mais c'est tout. Pendant 2000 ans, il y a un silence du côté du Créateur. Et c'est pour ça que... peut-être, mais toucher l'art, ok, mais pas de discussion, aucune discussion. Donc l'humain est laissé tout seul, l'humanité est laissée toute seule, et à aucun moment donné, le divin, la créature, le créateur, Slicha, va se tourner vers ses créatures. Ça, ça dure pendant 2000 ans, les deux premiers mille ans, il y a fait. Ensuite, la Gemara va se poser la question. Et les 2000 ans de Torah, quand est-ce qu'ils commencent? La réponse de la Gemara, ils commencent, alors accrochez-vous bien parce que c'est la paracha cette semaine, quand Avraham Avinu, il a marqué par rapport à Avraham Avinu, « Ve'a nefesh asher asu becharan » et les âmes qu'ils ont fait, qu'ils ont créées dans l'endroit qui s'appelle Haran. Là, Rashi nous ramène qu'Avraham a converti les hommes et Sarai a converti Avram et Sarai, hein? Sarai a converti les femmes, les a ramenées Tachat Kanfei Hashchina. Convertir, c'est pas au judaïsme, ça n'existait pas, mais au monothéisme. Alors la Gemara nous dit quel âge avait Avram à ce moment-là? 52 ans. Avram Avinu avait 52 ans quand les 2000 ans de Torah commencent. Et donc on déduit de la Gemara une chose très simple, une chose magnifique, on a déjà parlé, mais c'est un yesod. C'est qu'avec Avraham Avinu, quand il avait 52 ans, commencent les 2000 ans de Torah. De là, des Hagam ont déduit que Avraham Avinu est né en 1948. C'est un chiffre très important pour nous. 1948, la naissance d'Avraham Avinu. Mais c'est seulement quand il est à l'âge de 52 ans. 52 ans, on dit que c'est la gematria Ben. Ben, c'est un fils. Mais comme l'adage de nos Chachamim, de nos sages, nous dit « Altikre banaïr et abonaïr ». Ne lis pas tes enfants, tes fils, et là tes constructeurs, Bonaïr, Miché Boné. Quand est-ce qu'Avraham Avinu va construire ce monde? Quand il sera Ben, quand il aura 52 ans, va commencer la Torah. Va commencer l'apparition de la Torah. Quand est-ce que va commencer Yemot HaMashiach? Alors, quelque chose de très 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 bizarre. C'est qu'Yemot HaMashiach, on peut le pointer du doigt, on peut marquer le début de Yemot HaMashiach, après la destruction du premier temple, après la destruction du second temple, et après l'écriture de la Mishnah. On va y revenir, c'est très important. C'est-à-dire, une fois que la Mishnah a été écrite, une fois même que le Zohar a été écrit, alors on va commencer l'époque de la Galoute, et les Yemot HaMashiach, ça va être le début, l'époque messianique, les jours du Mashiach, ça va être en fait le début de la Galoute, de l'exil. Alors, c'est une chose qui se contredit. D'un côté, on parle l'époque messianique. Ça commence par l'exil. C'est quelque chose de terrible. Non, il faudra l'expliquer.
Dans les recherches les plus profondes.
Alors, c'est ça. C'est d'un côté, on appelle ça Yemot HaMashiach. Et on a un problème. Pourquoi? Parce que ça commence avec l'exil. Alors, regardez. On a dit au départ qu'au début, il y a eu 2000 ans de Tohu Bohu. 2000 ans de balagan, de doute. On voit des choses mais on ne comprend pas, on ne sait pas donner des définitions aux choses. On voit ce monde et on ne comprend pas le monde. On voit des hommes, des créatures, mais on ne comprend pas. On voit des nations et on n'arrive pas à comprendre leurs fonctions. chaque homme ou chaque nation n'arrive pas à comprendre sa fonction. Il développe des forces sans connaître le but. Y a-t-il un but ? À tel point que les philosophes vont encore arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de but. Mais regardez qu'est-ce qui va se passer. Après ces 2000 ans, il va avoir Torah. Si on se pose la question, le Maharal de Prague, on dit va Torah, va nous donner une définition. Qu'est-ce que veut dire le mot Torah ? Que veut dire le mot Torah ? Alors, le mot Torah, ça vient du mot Hora'a. Hora'a. Hora. C'est quoi Hora'a ? C'est enseignement.
Enseigner.
C'est-à-dire Moré, etc. Moré, c'est l'enseignant. Hora'a, c'est l'enseignement.
On rajoute toujours
que la Torah qu'on étudie, d'après les principes du Rambam, les Yud-Gimel, les 13 principes de foi du Rambam, qu'il faut avoir une émouna shlema, une confiance parfaite, que cette Torah mina shamayim. Il faut accepter que la Torah, elle vient de l'au-delà. Si la Torah, elle est mina shamayim, de l'au-delà, des cieux, akavana, du divin, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est Hora'a mina shamayim. Hora'a mina shamayim. Hora'a mina shamayim, ça veut dire quoi l'enseignement des cieux ? Rappelez-vous ce que le Rav Zivuda disait toujours. Ici, j'ai une yad, j'ai une main. Et ici, j'ai une deuxième main, on appelle ça yadaim. Yad, yadaim. Quand on met un pluriel, on le finit sur Saint-Hermot pour exprimer le double par aïm. Regel, raglaim, aïn, enaim, etc., etc. Pa'am, pa'amaim. Qu'est-ce qu'il disait au sujet de shamayim ? Shamayim, le Rav Zivuda Kook disait, c'est le pluriel de sham. Sham, c'est là-bas. Shamayim, c'est le là-bas du là-bas, c'est l'au-delà. C'est quelque chose qui n'est pas de ce monde, qui est dans ce monde, mais qui n'est pas de ce monde. Donc, Ora mina shamayim, quand on parle de Torah, on parle de Nevoa. On parle de Nevoa. Nevoa, c'est quoi ? C'est la prophétie.
Prophétie.
Pendant 2000 ans, on parle de cette sagesse qui est une sagesse avant tout prophétique, que le Créateur a décidé de parler à la créature. Et ça dure pendant 2000 ans. Depuis Avraham Avinu, où là, Kadosh Baruch Hu commence à parler à Avraham, il commence à parler à Yitzhak, il commence à parler à Yaakov, ensuite, il y a du silence jusqu'à la sortie d'Égypte, et là, il ne cesse de parler avec le peuple d'Israël à l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, et à partir de Moshe Rabbeinu, il va avoir, dit la Gemara, jusqu'à la fin de la prophétie, qui est au début du Second Temple, on verra les dates, il y a eu deux fois plus de personnes, de prophètes, que ceux qui sont sortis d'Égypte. Il y en a qui ont voulu donner un compte que 1 200 000 prophètes nous avons eu. Il y en a qui disent encore plus que ça, 2 500 000. C'est-à-dire que toute l'époque de la Torah, c'est l'apparition de la prophétie. Et même lorsque la prophétie va disparaître, la sagesse d'Israël, c'est de se rattacher à l'esprit prophétique par nos sages, par nos chachamim. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a pendant 2000 ans, tout va vous, le silence, l'incompréhension. Ensuite, l'apparition de la parole, l'apparition du message prophétique, la névoie. Et ça, c'est en même temps que l'apparition de celui qui est capable de recevoir la parole divine, qui s'appelle Am Israël, le peuple d'Israël. C'est l'adresse qu'Akadosh Baruch Hu va créer sur cette terre, le réceptacle, le keli, qui est capable d'entendre la parole divine. Ça va être la fonction du peuple d'Israël. Et ensuite, la parole se tait. Quand est-ce qu'elle se tait ? Elle se tait juste avant Yemot HaMashiach. Maintenant, qu'est-ce que c'est Yemot HaMashiach ? Quand on parle de Yemot HaMashiach, alors c'est les jours où le roi Messie, le Messie va arriver, le Mashiach va arriver. Il ne faut jamais, Chas v'Shalom, penser en français. Il faut toujours penser en hébreu. On se pose la question, comment ça se fait que le roi ultime d'Israël, descendant de David, qui va emmener la Géoula parfaite et entière d'Israël, comment se fait-il qu'on l'appelle Hameler HaMashiach ? Mashiach, ça veut dire ouin, d'accord ? Le roi qui est ouin. Qui était ouin ? Était ouin toute personne qui rentrait en fonction publique. Depuis les objets jusqu'aux personnes. En effet, tous les objets qui rentraient en fonction publique, c'est-à-dire dans le Mishkan, dans le tabernacle, ou dans au Beth Amikdash, ils étaient ouin. Pourquoi ils étaient ouin ? Pourquoi on versait de l'huile ? Parce qu'ils rentraient dans une fonction publique. Il y avait le Kohen à Mashiach. Il y avait le Kohen aussi qui était ouin. Celui qui devait parler aux soldats avant la guerre. Il y avait le roi qui était ouin. Et chaque roi d'Israël, descendant de David HaMelech, devait être roi. Pourquoi? Parce qu'il rentrait en fonction publique. Que veut dire Mashiach? Ça veut dire roi par du Shemen. Du Shemen, par de l'huile. Et on sait la particularité du Shemen. C'est quoi la particularité du Shemen? Le Shemen, l'huile.
C'est dans la Mishra. Et Shemen,
je ne sais pas. Shemoné.
Exactement. On avait dit Shemen, c'est Shemoné. Ha-Shemen. Il y a Ha-Shemen, c'est Shemoné, c'est 8, c'est au-dessus de la nature. C'est les mêmes lettres que Mishnah, c'est les mêmes lettres que Neshama. Nachon. Mais pourquoi ce Ha-Shemen? Pourquoi cette huile particulière? Shemen Ha-Mishra. L'huile d'onction. Cette huile-là, on sait que Akadosh Baruch Hu a créé l'huile, pas pour l'huile. Il a créé l'huile en fonction de sa fonction essentielle, c'est pour la lumière qui est cachée en elle. On tire la lumière qui est cachée dans ce liquide qui s'appelle l'huile. L'huile, c'est quelque chose de matériel, mais d'un autre côté, qui dévoile quelque chose de spirituel. Le spirituel est caché en elle. Et qu'est-ce qu'il faut? Nous, il faut arriver à réaliser toute la force spirituelle, toute la force de lumière qui est cachée dans cette huile-là. Et donc, qu'est-ce que faisait le roi? Sa fonction publique, c'est être au service d'Israël pour dévoiler la lumière d'Israël. Étant donné qu'il était lui-même, il était conscient que Israël avait une neshama, les mêmes lettres que Hashemé, neshama, âme. Cette âme-là, c'était quelque chose de au-delà du naturel, les mêmes lettres que Hashemé, c'est Shmona. Neshama, Shmona, c'est 8. On sait que le monde surnaturel est exprimé par le 8, le chiffre infini, etc. On a créé, Kadosh Baruch Hu a créé un cycle de 7 jours, alors que 8 témoigne toujours de quelque chose de dessus de la nature. Le Shmini Atzeret, c'est le 8e jour, on arrive au niveau de la Neshama, on fait plus de sacrifices aux nations, c'est Kadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël unique, on se réjouit de la Torah qui est particulière à nous, qui est notre Neshama, qui est notre âme. C'est tout le temps relié à la particularité d'Israël. Et donc cette Hashemen, cette huile-là, elle exprime le fait de sortir toute la lumière, toute la spiritualité qu'il y a dans Israël. C'est Yémant à Mashiach. Ces jours du Mashiach, c'est en fait la réalisation de ce qu'on a reçu à l'époque de la Torah, des 2000 ans de Torah. C'est-à-dire, Yémant à Mashiach, c'est l'homme qui maintenant a reçu tout le message divin et doit réaliser ce message divin. Il a reçu tout le projet, alors que pendant 2000 ans, on ne connaissait pas le projet, on était dans le doute. On ne savait pas où aller, on ne savait pas pourquoi Kadosh Baruch Hu avait créé le monde, et quelle est la fonction du monde, et quelle est la fonction d'Israël, quelle est la fonction de l'homme d'Israël. Pendant 2000 ans, le Ham Israël a reçu cette fonction, et les 2000 ans, nous sommes dans la pleine réalisation. C'est-à-dire, donc ça, c'est premier schéma. Premier schéma, le monde en trois, pendant une période, l'inconnu. Deuxième, la révélation. Et la troisième, réalisation. C'est-à-dire, le Rav Ashkenazi disait, on avait Pessah et Shavuot. Pessah, c'est la naissance de celui qui va recevoir la Torah. Shavuot, c'est reçu la Torah. Et Sukkot, c'est la réalisation de ça. C'est-à-dire, c'est la réalisation de la Torah que nous avons reçue. Donc, premier schéma, trois périodes. On sait, est-ce que jusque-là, vous avez des questions?
Alors, par rapport à Sarah Bonnet, on est très en retard.
Eh oui. Nous, on pense qu'on est en retard. Mais quand il y a que Kadosh Baruch Hu a ses plans, quand est-ce que tout doit arriver? Mais c'est vrai.
Le paradoxe actuellement. Actuellement, on est dans des forces contraires énormes.
Okay. Actuellement, c'est difficile de. Moi, j'ai du mal à parler du actuellement, mais on est à la fin. On est à la réalisation. Dès la fin, on est makébépatij, comme on dit dans l'alaha, la finition, on est dans les finitions. Maintenant, on a l'impression que Dafka précise en fait qu'on est retourné en arrière. Alors, extérieurement, on est retourné en arrière, mais de l'intérieur, on est dans les finitions. Ça va bien? Maintenant, regardez.
Amen.
Le jour dans la Torah, puisqu'on a dit 1000 ans, c'est un jour. Mais le jour, il est divisé en deux parties. D'après la Torah, c'est Vahi Erev.
Vahi
Boker. Vahi Boker. Alors, qu'est-ce qui est bizarre dans cette expression-là? Qu'est-ce que vous aurez marqué si vous aurez dû écrire la Torah? est essentiel. Besirata Dishmaya. Qu'est-ce que vous aurez remarqué si vous aurez dû écrire la Torah?
Vous aurez remarqué. Le matin se lève et ça commence.
Qu'est-ce que vous avez remarqué, pardon?
Je dis que normalement, le matin se lève, le jour se lève, et donc on commence l'histoire.
Alors, première chose, on aurait commencé par le matin, et on aurait fini par le soir. D'accord? Mais est-ce qu'on aurait dit matin et soir? Moi, j'aurais dit, ce fut le jour, ce fut la nuit, un jour. Ce fut le jour, ce fut la nuit, deux jours. Vous êtes d'accord avec moi?
Enfin.
Mais non, on ne parle pas de ça. On parle premier chidouche, comme vous avez dit, on a commencé par la soirée. Vayi Erev, ce fut la soirée. Vayi Boker, ce fut le matin. Et là, il va avoir la suite des jours. Yom Echad, un jour. Yom Sheni, Yom Shishi, etc. Jusqu'à Yom Hashishi. C'est bien? Mais ce qui est étonnant de remarquer, c'est d'abord, on commence par la soirée. Mais pourquoi avoir dire soirée? On aurait dû dire Vatehi Laila, ou Vahi Laila, Vahi Yom, Yom Echad. Ce fut la nuit, Laila. Ce fut le Yom, ce fut le jour, un jour. N'aura?
Ok, Erev, Slicharav, que Erev, ze Irbuvia, ze.
Bidou. Alors, qu'est-ce que.
Et à Boker, ze Bikoret, ze.
C'est aussi Irbuya. Et là, qu'est-ce qu'on exprime? On est Erev. Erev, on le retrouve dans les plaies. Arov, Makot, Arov. La plaie de Arov, c'est le mélange des bêtes sauvages qui habitent dans la jungle, qui viennent dans la cité, qui viennent dans la ville. Arov. Arov ne veut pas dire bêtes sauvages. C'est les bêtes sauvages qui se mélangent, en fait, avec les bêtes de la cité. Donc, ça s'appelle Makat Arov. Erev, ça veut dire le mélange.
Erev Rav.
Le mélange de quoi? Ou Erev Rav. Mais moi, je n'aime pas trop ce mot parce qu'aujourd'hui, on utilise ce mot quand il y a un problème avec un juif. On dit, hop, Erev Rav, shalom, c'est facile. Ou un fils, ça va bien, Erev Rav. Non, pas du tout. Alors, il y a très peu d'Erev Rav aujourd'hui, contrairement à certains rabbins qui disent que, nous, on n'est pas du tout d'accord avec ces rabbins, qui disent que l'Am Israël, il y a beaucoup d'Erev Rav en Eretz Israël. Et là, écoutez bien.
On parle d'Erev Rav de Mitzrayim.
Oui, là, on parle d'Erev Rav de Mitzrayim. On est en Mitzrayim, il y avait Erev Rav, et c'était justement le peuple que Moshe a accepté pour les gaillir au temps, pour les convertir. Erev Rav, c'est-à-dire ce mélange. Ce mélange. Maintenant, écoutez, si tu parles de Erev, et tu parles donc du mélange, qu'est-ce qui se mélange? On avait la lumière, et il y a eu la
l'obscurité.
L'obscurité qui arrive. Mais on a ce mélange. C'est-à-dire, à aucun moment donné, on veut mettre en avant qu'il n'y a que la nuit. Si une personne est née la nuit, il dit, la nuit, c'est un fait. Une personne qui a vécu la soirée, il a connu la lumière, et maintenant, il y a un manque de lumière. Il y a un manque de lumière. Donc, Erev, ça part de l'action de cacher la lumière. Boker, c'est l'inverse. C'est la lumière apparaît. Vers Boker Or, il y a un passage dans le droit, Boker Or, et la lumière, le matin, illumine. C'est-à-dire, on parle de ce passage de jour à nuit et de nuit à jour. On parle du passage, pas de l'état de fait. Vous comprenez? Pas l'état de fait de la nuit ou l'état de fait du jour. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on veut mettre en avant, justement, qu'il va y avoir des époques où il va avoir, où on cache la lumière. Mm-hmm. Ensuite, la lumière va réapparaître. La question est de savoir pourquoi. D'abord, le message, rien que dans ce verset-là de la Torah, c'est un message très, très positif, très optimiste. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, le jour commence par la nuit ou par la soirée. C'est-à-dire, d'abord, il va y avoir une période où la lumière est cachée, et ensuite, la lumière va apparaître. Tandis que dans la conscience occidentale, ou la conscience du monde entier, que pour eux, le jour commence par le jour. Et la nuit finit par quoi? Par justement, on finit la journée par la disparition de la lumière. Alors que pour nous, un jour nouveau est en train de se préparer. Et donc, on a le principe très simple, que Erev, c'est la préparation, au lendemain. Erev, on est en train de se préparer à. Non, c'est aussi l'expression de Michel Tarar, Erev Shabbat, celui qui s'est préparé Erev Shabbat. Tu rentres, il aura de quoi manger Shabbat. Et là, c'est quoi le minyan? C'est qu'on a Erev, c'est la préparation, et Boker, le matin, ça va être la réalisation. Alors, vous pouvez écrire comme ça, regardez. Erev, le soir, c'est le potentiel, Bekoar ou Bechoar, en potentiel, en force. c'est le boker. Et le matin, c'est le befoal. C'est le befoal. C'est quoi le befoal? C'est en action. C'est la réalisation de ce qu'était jusqu'à maintenant en France. Maintenant, on répète. Pour Akadosh Baruch Hu, un jour, c'est combien d'années de l'homme? C'est 1000 ans. D'accord? Mais un jour, il y a Vayer et Vayivoker. Donc, ce qui veut dire que quoi? Que le jour, il faut le diviser en deux. En deux quoi? Ben, 500 ans plus 500 ans, ça, c'est un jour. Combien va durer le Erev? 500 ans. Combien va durer le Boker? 500 ans. Ça marche?
Donc, non. Non, ça ne marche pas.
Pourquoi ça ne marche pas?
Ça ne marche pas.
Parce que vous devez nous expliquer qu'est-ce qui... Dans la Haggadah, on dit « Karev yom asher ulo yom velo laila ».
Ouh, mais ça, c'est seulement qu'on a passé la nuit du Seder qu'on pourrait arriver à comprendre ça. Mais on n'est pas encore la nuit du Seder.
Non, non, mais ça me concerne.
Quel rapport avec ça? Quel rapport avec ici?
Si, c'est un là, très grand rapport.
Là-bas, on parle d'un jour qui est « lo yom velo laila ».
Mm-hmm. Et c'est 500 ans et 500 ans.
Non, non. Là, moi, je parle très simple. Vayivoker, c'est-à-dire qu'on a parlé des temps d'Akadosh Baruch Hu. C'est en fait, c'est pas, il ne faut pas voir l'histoire d'Israël en 1000 ans, ni en 2000 ans. Il faut voir 2000 ans, dans les 2000 ans, les 2 fois 1000 ans, et dans les 1000 ans, les 2 fois 500 ans.
4 fois 500.
Voilà, 4 fois 500 ans. Vous avez compris?
Tu calcules bien.
Maintenant, regardez. Ça peut être compliqué, mais on va le faire ensemble. Les 2000 ans de Tohu Bavou, très difficile. La seule chose que j'ai besoin que vous sachiez, c'est les catastrophes qui s'est passées, la faute de Adam Harishon, si on peut le compter pendant ces 2000 ans, la faute de Caïn, l'assassinat de Caïn sur Evel,
le déluge,
la Dora Maboul, la génération du déluge, Dora Palaga, la génération de la Migdal Bavel, de la tour de Bavel, où il y a eu les divisions des nations, etc. Et la génération de Sodome et Gomorrhe, Sodome va mourir. Ça, on doit le connaître parce que c'est quelque chose de fondamental. C'est pendant 2000 ans, il y a une chute de l'humanité au niveau de la moralité. Point. Après ça, vient Abraham Avinu. Et à partir de Abraham Avinu, quand il a été 52 ans, comme on a dit, commence les 2000 ans de Torah. Moi, ce que je vais étudier, c'est les 2000 ans de Torah. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 2000 ans de Torah et aussi les 2000 ans de Yemot HaMashiach qu'on est aujourd'hui? Alors, regardez. Ça va être un peu long, on va le faire. Bezrat Hashem. Ici, on a 2000 ans de Torah. Moi, je vous conseille d'avoir une feuille de tout noter et j'espère que vous allez pouvoir bien voir ce que je vais vous montrer. Je l'avais donné l'année dernière, mais c'est toujours important de voir ça. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous voyez ça?
Oui.
Ah, c'est... Non, on n'a pas vu ça.
C'est l'intérieur d'un ordinateur.
Non, voilà, alors, vous ne voyez pas ce que je vois, moi.
C'est les questions.
Voilà, d'un ordinateur. On voit pas les collatérales.
Oui, oui. Ça disparaît. Je répète. Ça, ça c'est bon. Vous voyez maintenant la prise, là?
La chronologie. On les voit avant.
On les voit. OK, alors regardez.
Exemple.
Un sous-marin.
Exactement, c'est le sous-marin du divin, comment Hachem dirige son histoire. Maintenant, très important, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, c'est...
On entend mal.
Vous entendez?
Tout ce qui s'est maintenant, passé, je vois, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, on ne voit pas le cinquième.
Tout ce qui s'est passé, c'est en nous. Très important.
Je
n'entends pas. Vous n'entendez pas? Tout ce qui s'est passé, c'est en nous. Ça veut dire que, contrairement à l'étude d'une histoire de Chine, etc., etc., ça ne nous concerne pas. Tout ce qui s'est passé, ces événements, c'est marqué dans la mémoire de la nation. C'est-à-dire, Zecher Letziat Mitzrayim, toutes les misotes qu'on fait, c'est parce qu'il y a une mémoire collective qui s'appelle la mémoire d'Israël, que tout juif qui reçoit l'âme d'Israël, il a été marqué par tous les événements qui sont marqués sur ce papier-là. Donc, quand tu étudies l'histoire d'Israël, tu es en train de dévoiler les secrets de l'histoire de ta nation. Quand tu dis la Torah, tu dévoiles les secrets de l'histoire de ta nation qui est marquée en nous. C'est-à-dire, on a tous été traumatisés par la sortie d'Égypte, on a tous été traumatisés par le don de la Torah, on a tous été traumatisés par les 40 ans du désert, on a tous été traumatisés par l'entrée en Eretz Israël, on a tous été traumatisés par... Je prends le mot traumatisme, qui peut être positif ou négatif, mais c'est un traumatisme, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est passé et qui a changé ma vie, et il va avoir des conséquences directes par rapport à cet événement. C'est un événement historique, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences directes jusqu'à ma vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, et aujourd'hui, et même avant, à l'époque de Freud, il faisait des études. Comme je vous avais déjà rappelé, j'ai des amis que leurs grands-parents ont été rescapés de la Shoah, et ils ont gardé des réflexes de quand ils vont dans un supermarché, ils achètent énormément, ou ils achètent, ils reviennent avec 30 baguettes de pain, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a des traumatismes qui sont transmis à une génération de père en fils. Calvachomer a plus forte raison quand on parle de la nation d'Israël, qui est liée par Secher, qui est liée par le Zikaron. C'est-à-dire, on aura l'occasion de parler, parce que toute l'histoire du Kuzari, ça va être rattaché autour de ça, de l'histoire d'Israël. Maintenant,
est-ce qu'on peut recevoir cette feuille en...
Béli Neder, j'enverrai à Rabbi Yaakov, qui l'enverra à tout le monde.
Rabbi Yaakov.
Alors, est-ce qu'on peut juste un petit peu zoomer?
Et qu'est-ce qu'il y a dans la cinquième colonne?
Alors,
nous avons Motamashir.
Ken, ici, attendez.
Baït Rishon, Baït Sheni, après quoi?
Attendez, deux secondes. On va faire selon l'ordre parce que je ne vais pas tout vous lire. Je vais vous lire les choses qui sont très importantes pour nous et pour vous.
Uh-huh.
Ici, on a uniquement les 2000 ans de Torah. Donc, ça concerne le troisième et quatrième millénaire. Ça va? Maintenant, regardez bien. À partir de, comme on a dit, il va avoir, en l'an 2000, Avraham Avinu, hein, il va avoir donc 52 ans. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? À partir de Avraham Avinu, il va avoir la naissance de Yitzhak. Et ça, à partir de la naissance de Yitzhak, tout va changer. Qu'est-ce que ça veut dire, tout va changer? Enfin, Avraham a une descendance.
Qui peut Yitzhak et Karel Chazara.
Zera, c'est la Zera, c'est la fameuse descendance. Avraham Avinu, lui, il est né en 1948. Ça a l'air. Et là, 100 ans plus tard, il va avoir la naissance de Yitzhak. Donc Yitzhak, Pashut, il est né en 2048. Maintenant, à partir du moment où la Zera de Yitzhak, Zera de Avraham naît, la descendance de Avraham naît, il a été promis à Kadosh Baruch Hu, à l'alliance entre les morceaux, Brit Ben Abetari, il a été promis à Avraham Avinu que sa descendance descendra en Égypte pendant 400 ans. D'après Rashi, sur la paracha de, je crois, Mishpatim à la fin, il va faire le compte. Qu'on compte les 400 ans de la sortie de l'exil d'Égypte à partir de Yitzhak. C'est-à-dire que lorsque on va rajouter...
J'ai une question. Il y a 30 ans, après 30 ans, il a 52 ans, en 1948.
Non. 1948, c'est sa naissance. 52 ans plus tard, c'est le début de la Torah. Des débuts, à partir du moment où il commence à convertir le monde, commence la Torah. Quand il diffuse cette Torah à l'extérieur, commence les 2000 ans de Torah. Le monde profite de cette Torah d'Abraham Avinu. Il va commencer à convertir les hommes au monothéisme et Sarai, les femmes, au monothéisme. C'est ça? Maintenant, en 2048 va naître, ça je parle bien sûr en hébraïque, en 2048 va naître Yitzhak. Très important, 400 ans plus tard, c'est la sortie d'Égypte. On est en 2448.
Mm-hmm.
C'est vrai? Okay. 2448. Qu'est-ce qui se passe? Sortie d'Égypte. Et là, 50 jours plus tard, sortie d'Égypte, j'écris. Qu'est-ce qui se passe 50 jours plus tard? Le don de la Torah.
La Torah. Arsinaï.
Le don de la Torah, il y a Féméon. Maintenant, j'ai du mal à écrire. De 2000, vous êtes avec moi?
Oui.
Ça veut dire que de l'an 2000 jusqu'à environ l'an 2500, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Vaï Erev Vaï Voker. C'est le premier Erev des deux jours de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit Erev, c'est la préparation. C'est quoi la préparation? C'est ce qui est en potentiel. Mm-hmm. Pourquoi c'est en potentiel? Parce que ce n'est pas nous. Nous, on n'a rien fait. On a reçu, on n'avait presque aucune mitzvot pour sortir d'Égypte. On a reçu cette sortie d'Égypte. On a été formé peuple en Égypte. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça. On reçoit la Torah, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça, qui nous donne la Torah. Sortie d'Égypte, matin Torah, formation du peuple. Donc on y va. Pendant l'an 2000 jusqu'à 2500, vous marquez formation du peuple, formation de la nation, c'est ra. Formation de la nation. De la nation. Sortie d'Égypte, naissance de la nation. Et on reçoit la Torah. Shalom à Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, il faut réaliser cette Torah. Alors, on y va. C'est bon, là, vous suivez, là?
Oui.
C'est très dur, un cours sur Zoom. Pour vous, je ne sais pas. Pour ceux qui, pour moi, derrière l'écran, je ne sais pas, le regard des gens, je n'arrive pas bien à voir. C'est un peu difficile de savoir. Mais j'ai besoin de... Alors, regardez.
On est là.
Vous êtes là. Maintenant, vous voyez mon curseur, là, en 2005. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, une fois qu'on a reçu la Torah, alors on va rester combien de temps? Maintenant, j'efface ça. Combien on va recevoir? On va rester de temps. Bon, je vais le faire sans la frise parce que sinon, ça va être trop compliqué. La frise, je vous l'enverrai de l'univers. On est, donc 2005, on a fait. Ensuite, ou 2448 pour être précis. Après avoir reçu la Torah, okay, il va avoir deux fautes terribles. Chet Egel, Chet Amiragi. Faute du Vaudor, faute des explorateurs. Mm-hmm. Ça rentre dans les détails pour savoir quel est pire ou pas pire. En tout cas, c'est deux fautes terribles qui vont entraîner la catastrophe que nous allons rester 40 ans dans le désert.
Mourir dans le désert.
40 ans dans le désert. Attendre que toute la génération qui est sortie d'Égypte meure. Sauf Caleb et Yoshua et toutes les femmes qui sont sorties d'Égypte qui n'ont pas fauté ni au Régel ni à Meragli. C'est-à-dire qu'elles vont toutes rentrer en Eretz Israël avec Yoshua. Et il va y avoir quelque chose de très spécial. C'est que lorsqu'on rentre en Eretz Israël, donc en quelle date on va rentrer en Eretz Israël? En 2488. Vous pouvez marquer en 2488, le 10 Nissan 2488, rentrer ou entrer en Israël. Le peuple d'Israël rentre en Israël.
C'est bien Rishona.
En terre d'Israël.
40 ans après, oui.
40 ans. Maintenant, sachez, il y a une Mishnah qui dit 40 ans avant la
Léda.
La Léda ou la fécondation, il va se trouver. Alors, une bat kol yotzet, une voix divine sort et dit ce fils de cette personne avec la fille de cette personne. À chaque fois qu'on parle du chiffre de 40, ça s'appelle la période de gestation. Il y a une gestation comme ça pour que ça se réalise. Mais là, ce qui est bizarre, c'est qu'on va être 40 ans dans le désert. Nous, il y a Fémeode. Et quoi d'autre? On va attendre. On va attendre 440 ans. Qu'est-ce que ça va être cette période de 440 ans? On va être en Eretz Israël, mais sans Beth Amigdash. Avec le Mishkan, mais sans le temple à Jérusalem. Okay. Nous, on revient en Eretz Israël depuis 1948, on veut tout de suite construire le Beth Amigdash. À l'époque de Yoshua, à l'époque de toute la période de Yoshua, Shoftim, des juges, de Shmuel, etc., on attend 440 ans. Avant que Shlomo construise le Beth Amigdash. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a, en 2928, c'est-à-dire 2928, ça va être la construction du Temple de Jérusalem. Construction du Temple, du Beth Amigdash, en 2928. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans? C'est toute la période de Josué, Yoshua. C'est toute la période des juges. C'est toute la période de Shmuel, du Sefer Shmuel, avec l'histoire du roi David, etc.
Shaul,
Slicha, et ensuite le roi David et Shlomo. Et c'est seulement vers la fin de 1928 qu'on va voir la construction du Beth Amikdash. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, expliquez-moi. On est dans la deuxième période. On a passé 2000, 2500 ans, formation du peuple, création du peuple, sortie d'Égypte, don de la Torah. Ensuite, la deuxième période, c'est Vayi Boker. C'est quoi Vayi Boker? La réalisation de ce qu'on a fait. On a créé une nation qui doit se réaliser en Eretz Israël, selon la Torah d'Eretz Israël, la Torah d'Israël, en Eretz Israël. Et ensuite, c'est nous qui allons réaliser ça. Vous l'avez? On va rentrer en Eretz Israël, on va conquérir comme une nation. Ces guerres-là, toute cette période de Yoshua Shoftim va nous former encore plus en tant que nation. On n'est pas une nation en potentiel. On est une nation en acte, par des guerres, par des conquêtes, par des combats, par des choix de qui va nous diriger, jusqu'à comprendre que Somme Tassim Alecha Meler, le besoin d'avoir des rois, on va nommer des rois. Vous comprenez qu'on ne peut pas réunir plusieurs personnes et dire « toi, tu seras le roi ». Un roi, c'est quelque chose qui sort du peuple. Un roi, c'est quelque chose qui est décidé par le divin.
Il se distingue.
Et il va avoir la réalisation de cette nation construite comme si construite par l'homme jusqu'à la construction du Beth Amikdash. Et pendant 3 ans du règne de Shlomo, on arrive comme au summum de la réalisation de ce qu'on espérait depuis la sortie d'Égypte. Et là, on pensait qu'on était arrivé. C'est-à-dire ? Donc, qu'est-ce qu'on a ? De 2000... De 2000 à 2500, le potentiel. De 2500 à l'an 3000, grosso modo, hein, parce qu'on a vu, c'était 1928, on arrive à la réalisation de ce qui s'était passé en Égypte, donc de la Torah, etc. Maintenant, combien de temps va durer le premier Beth Amikdash? On va voir le premier temple qui va durer 410 ans et qui va être détruit en 3338. En 3338, retenez cette date, destruction du premier temple. OK? Destruction du premier temple. Plus 70 ans d'exil de Babel. Et grosso modo, en 3408, construction du second temple. Pour une période de 420 ans. Et en 3828, je ne me trompe pas, ouais, 3828, destruction du second temple. OK. Ça, c'est les dates.
En 3000 combien? 400? Non.
3828. Ah oui, vous ne voyez pas là.
Merci.
On ne voit pas, hein? On voit pas votre tableau.
Attendez. Ça marche?
Ah oui.
Pas tenir longtemps, mais c'est 3408 plus 420 ans du second temps, destruction en 3828.
D'accord, merci.
Rien, regardez. On revient, va y errer, va y évoquer. On était arrivé à 3000. De 3000 jusqu'à 3500. On est dans le deuxième soir, on est dans le deuxième soir du deuxième jour de la Torah. On a dit le soir, c'est le potentiel. D'accord ? C'est quoi le potentiel de ce soir-là, de l'an 3000 à 3500 ? En fait, c'est toute l'époque du premier temple et le début de la reconstruction du second. Qu'est-ce que c'est? C'est la présence divine d'Israël, sur la nation d'Israël, en Eretz Israël, avec le temple de Jérusalem, avec les prophètes et les rois. C'est un peu l'idylle du peuple d'Israël. Sauf, on est sur notre terre, on a un royaume, Hachem est avec nous, on a des prophètes, le monde entier connaît la grandeur d'Israël. Bien sûr, au niveau spirituel, il y a des problèmes, etc. Mais on dit, tant qu'il y avait la présence du premier temple, il y avait la Shekhina, il y avait la présence divine. C'est-à-dire ? Maintenant, qui fait cette présence divine ? Hachem dévoile sa présence divine. C'est plus, écoutez cette phrase, plus de son côté, Mitzido, que de notre côté, que de Mitzidenu. C'est plus Bisruto, c'est plus grâce à son mérite à lui, que Bisrutenu, que par notre mérite à nous. Pourquoi ? Parce qu'on évahit Erev, on est dans le potentiel. C'est tout le temps le divin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? On nous retire ça, on nous retire le premier Beth Amikdash, on nous retire la présence divine, à tel point que lors de la construction du second Beth Amikdash, les gens pleuraient, eux étaient pleurés de joie et pleuraient de tristesse, dit la Gemara. Certains pleuraient de joie parce qu'ils voyaient la construction du temple. Et ceux qui étaient présents lors de la construction du temple, qui avaient vécu l'époque du premier temple, pleuraient parce qu'ils disaient, c'est ça, le temple de Jérusalem à l'époque, c'était une présence divine. On sentait cette présence. Aujourd'hui, c'est juste des pierres, un bâtiment. Ça va ? Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? À partir de l'an 3500, ou à partir de l'époque du second temple, il va avoir Vaï Boker. C'est quoi Boker ? C'est que nous qui allons réaliser ça. Mais si c'est nous, il va y avoir une catastrophe. À part la destruction, ou en même temps que la destruction du premier temple, et cette chute-là, cette disparition de la présence divine, il va avoir, et le départ en Galoute, le départ en exil, même si on revient en Eretz Israël, il va avoir la fin de la névoie, la fin de la prophétie. Mais en même temps que la prophétie est en train de disparaître, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu commence à cesser de parler au peuple d'Israël, il va avoir la naissance des sages d'Israël. La Gemara dira que Ezra, lorsqu'il va retourner en Eretz Israël pour reconstruire le second temple, va faire former, va prendre 120 sages, il va créer les Anshe Knesset Egdola, les gens de la Grande Assemblée. Je vois qu'il est très très tard et le Rav Ben Ishai arrive. Regardez, Bezrat Hashem, on est en plein histoire, on est en plein histoire du Ham Israël et on a besoin de tout ça pour mieux comprendre le Kuzari. Shavua Tov Lekulam,
Toda Rabba. Toda Rabba Rav.